Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. L'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le respect du secret professionnel dans le secteur de la santé au Niger. Tous les fonctionnaires et les agents contractuels sont soumis au devoir de réserve et tout agent public est également soumis à une obligation de discrétion professionnelle concernant le fonctionnement de son administration. Comment se définit le secret professionnel auquel sont soumis les médecins? Quelles sont les voies de recours pour des potentielles victimes? Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de violation du secret professionnel dans le secteur de la santé? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Maman Bachir Ali, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. Bonsoir Maman Bachir.
Bonsoir Madame.
Docteur Awal Issa Rachid, membre de l'Association des jeunes médecins du Niger et membre de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. Bonsoir, Docteur Awal.
Bonsoir, Fatih.
Je suis Fatih Zakari à la présentation de ce forum. Je commence par Docteur Awal Rachid. Vous êtes donc membre de l'Association des jeunes médecins du Niger et aussi membre de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. Qu'est-ce que c'est que le secret professionnel dans le domaine de la santé?
Alors, merci beaucoup Madame Fatih. Mmh. Je remercie aussi le studio Kalangou pour l'invitation, pour tout ce que vous accordez comme importance à ce thème quand même très important qui est le secret professionnel. Et aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas parler du secret professionnel sans parler de l'éthique et de la déontologie.
Bien sûr.
Alors, c'est quoi l'éthique, c'est quoi la déontologie? C'est deux termes qui sont quand même couramment utilisés, mais malheureusement qui sont de l'autre côté aussi mal compris. Alors, c'est quoi l'éthique, si vous voulez? L'éthique constitue l'ensemble, ok, des règles et de bonnes conduites à vocation universelle. C'est en fait la morale. Et qui dit morale, c'est si vous voulez l'ensemble des règles qui nous permettent de différencier aussi le bien de mal, qui nous permettent d'agir en bien et d'éviter aussi le mal. Alors, un de nos enseignants, pour nous expliquer en français facile, il dit l'éthique, c'est quoi? C'est-à-dire, d'une manière générale, c'est quand vous êtes face à une situation et que vous pouvez agir comme vous voulez. Vous avez, en fait, le droit de faire tout ce que vous voulez, mais vous dites, attention, quand je fais ça, c'est mal. Et quand je fais ça, c'est bien.
Je commence par Dr. Awal Rachid. Vous êtes donc membre de l'Association des jeunes médecins du Niger et aussi membre de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. Qu'est-ce que c'est que le secret professionnel dans le domaine de la santé?
Alors, merci beaucoup Madame Fatih. Je remercie aussi le studio Kalangou pour l'invitation, pour tout ce que vous accordez comme importance à ce thème quand même très important qui est le secret professionnel. Et aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas parler du secret professionnel sans parler de l'éthique et de la déontologie.
Bien sûr.
Alors, c'est quoi l'éthique, c'est quoi la déontologie? C'est deux termes qui sont quand même couramment utilisés, mais malheureusement qui sont de l'autre côté aussi mal compris. Alors, c'est quoi l'éthique, si vous voulez? L'éthique constitue l'ensemble, ok, des règles et de bonnes conduites à vocation universelle. C'est en fait la morale. Et qui dit morale, c'est si vous voulez l'ensemble des règles qui nous permettent de différencier aussi le bien de mal, qui nous permettent d'agir en bien et d'éviter aussi le mal. Alors, un de nos enseignants, pour nous expliquer en français facile, il dit l'éthique, c'est quoi? C'est-à-dire, d'une manière générale, c'est quand vous êtes face à une situation et que vous pouvez agir comme vous voulez. Vous avez, en fait, le droit de faire tout ce que vous voulez, mais vous dites, attention, quand je fais ça, c'est mal. Et quand je fais ça, c'est bien. Donc, vous êtes seul dans votre bureau et voilà une situation qui se présente. Vous devez réfléchir et agir selon la morale, donc selon l'éthique. Et dans notre corps médical, il y a ce qu'on appelle les principes d'éthique. Et c'est là-bas où on parle de la primauté, de la sacralité de l'être humain. Et quand vous prenez la déontologie, c'est en fait le devoir. Et le devoir, c'est quoi? C'est ce qu'on doit faire, en fait. Et c'est là-bas, si vous voulez, qu'on parle cette fois-ci dans le principe déontologique médical, où on parle cette fois-ci du secret professionnel. Donc, vous voyez un peu, donc le secret professionnel, pour encore paraphraser ou bien donner un exemple, comment est-ce qu'un malade, un patient, va se sentir s'il sait que tout ce qu'il va aller raconter à l'hôpital sera divulgué dehors. Donc le secret professionnel, c'est vraiment le fait de garder en soi-même tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche chez un malade. Voilà.
Maman Bachir, vous êtes un membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale. Quel professionnel de santé est concerné par le secret professionnel?
Donc, merci madame. Et comme l'a expliqué le docteur, le secret professionnel en un mot, c'est cette discrétion-là que l'agent de santé doit faire face à son patient. Quel que soit le résultat qu'il va avoir, en tout cas, il est appelé à une discrétion face à que ce soit la confidentialité ou bien les découvertes qu'elle a faites sur son patient. Maintenant, qui et qui sont soumis au secret professionnel? Le secret professionnel, tout agent de santé, médecin, infirmier, sage-femme, en tout cas même les techniciens de surface, les ouvriers, tout le monde, tout agent de santé a lien, tout agent a lien avec le malade, il est soumis au secret professionnel. Même les membres de l'administration sont soumis au secret professionnel.
Et voilà. Pourquoi on dit secret? Pourquoi secret?
Secret professionnel, on dit secret, ça vient de l'éthique et de la déontologie. Donc, parmi les principes de la déontologie, il y a cette discrétion-là, qui est le secret professionnel. Donc, pourquoi on dit secret? Parce que ça doit rester entre le patient et son soignant et le personnel soignant. Donc, la personne traitante est appelée à garder pour soi tout ce qu'il va découvrir chez son patient. Parfois, il y a même des parties où on est obligé de ne même pas dévoiler, même au patient lui-même, à plus forte raison à une tierce personne. Donc, d'où les mots secrets.
Si vous permettez, j'aimerais bien ajouter. Étant agent de santé, d'une manière générale, et il a dit, nous sommes tous soumis au secret professionnel. C'est-à-dire que ça soit depuis les auxiliaires, en passant par les agents, même le gendarme qui est à la porte de l'hôpital, qui voit le patient entrer, est soumis à ce secret professionnel. On appelle secret médical aussi. Mais n'oubliez pas que, c'est vrai, nous sommes des agents de santé, mais nous sommes aussi des humains. C'est-à-dire, notre robe d'agent de santé se limite seulement quand on est à l'hôpital. Quand on est à la maison, si vous êtes ma soeur, vous êtes ma soeur, vous pouvez me confier un secret. Vous pouvez me dire des choses sur vous que, bon, je peux divulguer, c'est vrai, c'est un secret, mais dans la causerie, je peux divulguer. Qui est contraire, cette fois-ci, au secret professionnel qui me lie à ma profession et au patient, c'est-à-dire au malade qui vient consulter. Donc, c'est la confidentialité dans le cadre de mon travail. Donc, vous voyez la nuance entre le secret, parce que le secret, il y en a partout. Dehors, il y a le secret. De la famille, il y a le secret. Avec les amis, il y a le secret. Mais l'autre, le secret professionnel dont on est en train de parler, c'est-à-dire le secret médical, là, c'est à l'hôpital. C'est dans l'exercice, en fait, de la fonction de l'agent de santé. Donc, tout ce que vous allez découvrir dans l'exercice de votre fonction. Donc, voilà la nuance que je voulais apporter entre secret tout court. Voilà, vous avez des secrets. Voilà.
<sûr. rire>
Et puis le secret professionnel ou bien le secret médical dans l'exercice de la fonction médicale.
Oui, docteur, est-ce qu'il y a des exceptions dans le secret professionnel pour l'agent de santé?
Il y a des exceptions. Et le secret, des fois, il n'est pas individuel. Parce que vous savez, la prise en charge médicale, elle peut être pluridisciplinaire. Et on a ce qu'on appelle un leadership collégial, de sorte qu'on travaille en équipe. Dans une équipe, vous allez avoir le médecin. Oui. Je prends une équipe de bloc, par exemple. Vous allez avoir le chirurgien, l'anesthésiste, l'instrumentaliste, l'aide-chirurgien, le manœuvre, etc. etc. Ou quand il y a un patient, on est obligé, dans le cadre, je bien dis, dans le cadre d'une meilleure prise en charge de notre patient, de partager le secret avec notre équipe, qui sont tenus à leur tour de respecter ce secret-là. Vous voyez un peu? Et il y a aussi le jeune enfant. Le jeune enfant, un enfant n'a pas de secret. Donc, il y a des choses chez le jeune enfant, par exemple, qu'on peut dire à ses parents. On ne peut pas dire à tout le monde, mais on peut dire à ses parents. Les gens ont tendance à croire que, par exemple, les adolescents, les mineurs, n'ont pas droit au secret. Bien sûr, on n'a pas le droit de divulguer le secret d'un adolescent ou d'une adolescente, même si elle est mineure. Mais là, je parle tantôt, tout à l'heure, du jeune enfant. Donc, il faut faire la différence. Une fille de 15 ans, par accident, prend une grossesse, vient me voir en tant que médecin, ou bien en tant qu'agent de santé, de manière générale, mais je n'ai pas le droit de divulguer son secret. Parce que c'est confidentiel.
Même à sa famille.
Même à sa famille. Parce que je suis soumis à ce secret professionnel. C'est pas parce qu'elle est mineure que je dois aller divulguer ça.
Et le papa ou la maman a besoin de savoir quelle maladie a donc son enfant.
Son enfant, avec toutes ses capacités et mentales, psychiques, physiologiques et tout ce que vous voulez, qui vient me voir, je n'ai affaire qu'à lui. Mais là, tout à l'heure, je parlais du jeune enfant, où là, je serais obligé d'échanger, de discuter avec ses parents dans le cadre de sa prise en charge.
Oui, docteur, à part...
Mais nous, chez nous, on ne parle... Non, histoire de mineur, non. Oui. Même si c'est un mineur, bon, on dit mineur avant 18 ans. Quelqu'un qui a 17 ans, qui, en tout cas, qui joue de toutes ses facultés, nous, on le traite directement avec lui. On traite avec lui, en fait, pas avec ses parents. Maman peut aussi ajouter.
Pour compléter, docteur, comme il l'a dit, les mineurs aussi sont soumis au secret professionnel. Et au-delà des mineurs, même les malades mentaux, les malades qui sont dans le coma, ils sont soumis au secret professionnel. Hein. Oui. Si ce n'est pas le malade qui demande de divulguer son secret, même à son propre parent, donc le secret professionnel doit être gardé.
Il parlait des malades de le coma, même les défunts. Même le défunt. Un malade décède de quelque chose, ok, dans un service hospitalier, on n'a pas le droit en tant qu'agent de santé de divulguer son secret.
Oui, mais docteur, si un patient souffre d'une maladie contagieuse, il a le droit de dire non à la famille que voilà, votre patient souffre d'une telle maladie qui est contagieuse et que vous devrez prendre vos précautions pour ne pas être contaminé.
Alors là, on peut parler d'exception, ok? Dans certaines maladies contagieuses, mais là aussi, ce n'est pas l'agent de santé de son propre chef qui va aller informer, par exemple, la famille. Il faut toujours le consentement du patient. Mais il y a certaines maladies qui sont à déclaration obligatoire, par exemple, où l'agent de santé est tenu, pour une question de santé publique, à informer qui de droit. Là, c'est carrément différent. Quand vous prenez même, par exemple, les patients vivant avec... un patient que vous testez positif au VIH, par exemple, pendant un certain temps, vous, en tant qu'agent de santé, vous n'avez pas le droit. Genre, si c'est le mari, je prends juste un exemple banal, hein. Bon, c'est pas banal, mais je prends un exemple. Vous consultez un mari, et il savait que vous connaissez sa femme, et il est testé positif au VIH. Vous n'avez pas le droit, automatiquement, d'informer sa femme. Parce que vous êtes tenu au secret médical.
Mais là, vous mettez sa femme en danger ou bien?
Il met sa femme en danger. Vous exercez. Vous êtes un professionnel de la santé. Mais je crois qu'il y a des réglementations par rapport à ça. Oui. Je ne maîtrise pas sincèrement, ça je le dis, ok? Ou à un certain temps, je ne sais pas si maman maîtrise, à un certain temps, si le mari n'informe pas, l'agent de santé est tenu d'informer. Mais il y a quand même un certain temps, il y a toute une procédure en fait par rapport à ça.
Voilà, un peu pour compléter. C'est vrai, et par rapport surtout aux ISTV et aux SIDA, avant, ce n'était pas réglementé. Donc l'agent de santé n'a pas le droit d'informer un conjoint sur l'autre et séropositif ou autre. Mais maintenant, je pense qu'il y a des dispositions prévues par la loi qui font en sorte que l'agent de santé peut informer le conjoint si la vie du conjoint est mise en danger. Si l'autre, l'infecté, refuse d'informer le conjoint, son conjoint, son partenaire ou sa partenaire, en tout cas, il y a des dispositions, il y a des voies et moyens que l'agent de santé peut suivre pour informer et le partenaire ou la partenaire. Maintenant, et par rapport aux maladies à déclaration obligatoire aussi, et c'est vrai, il y a des maladies, dès qu'on a le cas, il faut obligatoirement informer la RHI. Donc, d'où ce que j'avais dit, l'administration même est impliquée dans le secret professionnel. C'est dans ce genre de situation. Si on informe l'administration, que ce soit les agents de l'informatique ou bien l'administration, eux aussi sont tenus au secret professionnel. Il y a des pathologies où il ne faut même pas nominer les malades et dire c'est un tel qui a telle pathologie, même si c'est à déclaration obligatoire. Mais maintenant, il y a des pathologies à déclaration obligatoire où on peut nominer. Et même dans ce cas, l'administration aussi et les autorités sont tenues à ce secret professionnel.
Et maman, est-ce que tous les professionnels de santé comprennent l'ampleur du secret professionnel?
Et le secret professionnel, tout à l'heure, le docteur a expliqué, c'est l'éthique, c'est dans l'éthique, le cours d'éthique et de la déontologie qu'on parle du secret professionnel. Tout agent de santé, toutes les écoles de formation de santé dispensent ce cours-là. Tout agent de santé qui vient, tout étudiant qui vient dans une école de santé, les premiers cours qu'on dispense avant qu'il ait accès aux patients, c'est les cours d'éthique et de la déontologie. Avant même qu'il n'ait accès aux patients, avant qu'il commence même ses stages, il a ses cours à sa disposition. Donc, toutes les écoles de santé font les efforts pour dispenser au maximum les cours d'éthique et de la déontologie. Donc, par cette voie, informer les étudiants sur les secrets professionnels.
Docteur Awal, comment l'agent de santé doit respecter le secret professionnel?
Alors, pour respecter le secret professionnel, il faut d'abord savoir, il faut d'abord connaître c'est quoi le secret professionnel. Et comme l'a dit maman tout à l'heure, aucun agent de santé, stagiaire, parce qu'il faut d'abord être stagiaire avant d'être agent de santé réellement, avec un diplôme. Aucun élève ou étudiant ne met pied à l'hôpital pour un quelconque stage sans avoir reçu le cours sur l'éthique et la déontologie. Vous allez voir, pratiquement le cours est basé sur la morale, le devoir, le droit du patient, le droit, le devoir en tant qu'agent de santé et le secret professionnel. Donc, tout le monde est informé du secret professionnel. Maintenant, comment le respecter? Vous savez, nous venons tous des horizons différents, avec des éducations différentes, avec la manière de voir les choses différemment. Et aujourd'hui, avec l'avènement surtout des réseaux sociaux, malheureusement, et même quand on voit certaines personnes dans le domaine de la santé, ça craint, sincèrement. C'est vrai, nous, nos aînés étaient quand même pour nous, si tu voulais, des idoles.
Des modèles.
Des modèles. Mais aujourd'hui, force est de constater que dans les services de santé, de voir des petits-enfants en fait, qui ne m'ont pas compris, comme on dit en Hausa, in the dunya, qui n'ont pas compris même le sens de la vie, qui sont toujours dans l'adolescence, dans... Voilà, vous voyez. Ces gens-là, deux fois, ils n'arrivent pas à comprendre. Et l'autre aspect, quand on a quand même un service hospitalier où il y a beaucoup d'agents, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est autour de la communication, des éthiques, ce n'est pas facile. Mais c'est que chacun doit faire son mea culpa, chacun doit savoir sa responsabilité. Et je crois que c'est de là qu'on doit commencer. C'est une responsabilité. En fait, le secret professionnel, surtout médical, c'est une responsabilité de l'agent. C'est vraiment personnel. Si on comprend bien, parce que c'est toujours dans la prise en charge du malade. Quand vous divulguez un secret du malade, vous mettez le malade en danger. Et quelque part, vous vous mettez vous-même en danger. Et vous mettez la communauté en danger. Je crois que si nous arrivons à comprendre cela, nous pouvons sauver beaucoup de gens.
Mais Maman Bachir, est-ce que la violation du secret professionnel est une infraction?
La violation du secret professionnel, c'est une infraction. Et le secret professionnel, d'abord, est très important dans la pratique de la médecine. Parce que sans secret professionnel, la profession médicale sera pratiquement impossible, je disais. D'où c'est prévu même par le code pénal, dans son article 221, les sanctions liées à la violation du secret professionnel. Donc, il est prévu un emprisonnement jusqu'à 2 mois une amende de 10 000 à 200 000 par l'article 221 du code pénal. Voilà, donc c'est extrêmement important dans le cadre de la profession médicale. Et tout à l'heure, docteur parlait des images et autres sur les réseaux sociaux. Et même ces images-là, si ce n'est pas dans le cadre formatif, ce n'est pas légal. Hein. C'est illégal. Parce que c'est vrai, on a dit secret professionnel, c'est entre le soignant et son patient. Mais il peut s'avérer que c'est toute une équipe qui prend en charge le patient. Donc le partage du secret entre l'équipe qui prend en charge, ça, ce n'est pas une violation du secret professionnel. Si c'est entre l'équipe qui prend en charge le patient. Mais si ça sort de l'équipe, ça, c'est une violation du secret professionnel et c'est prévu par la loi, c'est sanctionné. Mais même l'absence d'une pathologie chez un patient, par exemple un résultat négatif, ou bien quelqu'un qui vient consulter, on lui dit qu'il est bien portant. Même ça, là, c'est un secret professionnel. On ne peut pas divulguer à un tiers qu'un tel il est venu consulter et il est bien portant. Même ça, c'est un secret professionnel.
Et quelles conséquences donc la violation du secret professionnel peut avoir sur le patient?
Directement entre le patient et son soignant, la première conséquence, c'est la rupture de confiance. Parce que si le patient n'est pas mis en confiance, s'il sait que ce qu'il va dire là, ça sera divulgué, il ne va pas dire. Et sans cette mise en confiance là, il n'y a même pas de relation entre soignant et soigné. Et la vie même du patient ou la santé du patient est mise en danger si tout son secret est divulgué. Donc le patient lui-même, il est mis en danger. Et il y a aussi cette rupture de confiance, cette rupture des relations entre le patient et son soignant.
Docteur Awal, quelles autres conséquences la violation du secret professionnel peut avoir sur le malade?
Alors vous savez, quand on reçoit un malade, la première étape de sa prise en charge de la consultation médicale, c'est l'interrogatoire. Et c'est au niveau de cette étape qui est l'interrogatoire où on pose un certain nombre de questions, où on discute, où on échange avec le patient afin de connaître de quoi est-ce qu'il souffre avant de passer à tout ce qui est examen, hypothèse et puis la prise en charge et puis le traitement. Et l'interrogatoire est capital parce qu'il faudra que le patient puisse s'exprimer, puisse vous dire tout. Mais si à ce niveau, il sait qu'il n'y a pas cette confidentialité entre vous, si c'est à ce moment qu'il n'a pas la garantie que ce qu'il va vous dire va rester entre lui et vous, il y a, comme l'a dit maman, rupture de confiance. Et tant que cette phase, cette première phase est ratée, tout sera raté en fait. C'est-à-dire des hypothèses diagnostiques jusqu'au traitement, tout sera raté. Et là, quand on rate un traitement des malades, c'est la vie du malade qui est mise en danger. Et comme ce que j'ai toujours dit, vous savez, nous agissons sur les humains. Ce n'est pas un mécanicien qui peut taper ici, il enlève tel pneu, il arrange en bas, il remet. Non, nous travaillons sur les humains. Quand vous commettez une erreur, cette erreur peut être fatale au patient. Quand vous trompez d'un dosage, vous pouvez rater, vous pouvez tuer votre malade. Donc c'est vraiment très délicat quand on sait avec tout ce qui entoure, en tout cas un être humain, et qu'on doit le prendre en charge. Donc la rupture de confiance. La deuxième chose, c'est aussi social. Il y a des pathologies, tout à l'heure on a parlé des ISTVIH. Imaginez un patient qui se retrouve dans un quartier où tout le monde sait qu'il est PVVIH, personne vivant avec le VIH. Comment est-ce qu'il sera vu? La stigmatisation. Il y a de ces maladies, là je ne parle pas du paludisme. Il y a des gens, même le palu, il le cache. Il y a d'autres maladies plus graves où même votre famille, quand des gens sont au courant, vous êtes automatiquement rejeté. Vous êtes automatiquement stigmatisé. Même au niveau du boulot, vous êtes automatiquement renvoyé. Et vous voyez, quand vous êtes renvoyé de votre travail, là, c'est le côté économique même qui va rentrer. Donc, le non-respect du secret médical a beaucoup, beaucoup de conséquences.
Mm-hmm. Voilà, merci. Et la deuxième partie de cette émission donc, parle sur les procédures de dédommagement. Nous allons à présent écouter Goja Maimouna Gazibo, magistrate et coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique sur les voies de recours en cas de violation du secret professionnel par l'agent en deux santé.
D'abord, les victimes. Parce qu'il y a beaucoup d'infractions. Si la victime elle-même, cela ne la dérange pas, ça ne dérangera pas non plus la justice. Lorsque c'est votre secret qui a été révélé et que cela ne vous gêne pas, vous ne saisissez pas le procureur, alors rien ne va se faire. Par contre, toutes les fois où quelqu'un s'introduit dans votre espace privé en utilisant des professionnels que vous avez approchés, vous avez le droit de saisir la police, la gendarmerie et la justice. On peut directement aller au cabinet du procureur. Le procureur va vous référer à un commissariat. Lorsque la personne est poursuivie, jugée, reconnue coupable, vous avez deux options. D'abord, la personne peut prendre une peine d'emprisonnement d'un an. Ensuite, la personne peut être condamnée à verser une amende entre 20 000 et 200 000 au trésor public. Ensuite, vous, qui avez été atteint dans votre dignité, vous pouvez vous constituer partie civile et réclamer des millions. Le juge, en fonction de l'intensité de la blessure, le juge, en fonction de l'importance et de l'impact que la révélation de secret a eu sur vous, peut décider de vous accorder des dommages intérêts qui varient selon son intime conviction. Il peut accorder 500 000, il peut accorder 600 000, il peut accorder 2 millions, il peut accorder 10 millions. C'est en fonction de l'importance du préjudice que vous avez subi. Le juge va vous accorder un dommage. Et ce que j'interpelle les justiciables, si toutes les personnes incapables de garder leur bouche dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, des poursuites étaient exercées, il y aura moins de commérages dans les services. Aujourd'hui, lorsqu'on va vers un service, c'est qu'on a besoin d'avoir confiance, de se dire que ce qui se dit entre mon médecin et moi, c'est entre mon médecin et moi. Dans l'éthique et la déontologie, maintenant, faut-il que les citoyens soient suffisamment éduqués, suffisamment sensibilisés pour comprendre que les atteintes à la vie privée, mes secrets relevés par des professionnels, constituent une force lourde devant les juridictions pour lesquelles non seulement ces personnes peuvent écoper d'une sanction disciplinaire. C'est très important.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les patients sont conscients même de l'existence de ces voies de recours?
Très peu. Il y a très peu de patients qui savent qu'en réalité, lorsque mon médecin parle de ma maladie, lorsque mon médecin parle de ma vie, je peux le poursuivre. J'ai des possibilités de porter plainte. Et c'est pour ça que pèse sur nous, en tant que médias, en tant que professionnels de la justice, l'obligation de dire aux gens, voici vos droits.
Vous venez là donc de suivre Goja Maimouna Gazibo, magistrate et coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique sur les voies de recours en cas de violation du secret professionnel par l'agent de santé.
Je ne pense pas si les patients sont conscients parce que, bon, vous savez, il y a toujours cette passivité, cette patience du Nigérien, du patient même, ok. Il y a ce laxisme aussi entre nous où on se réfère toujours à Dieu. Tout ce qui nous arrive, Allah est KO. Donc on se réfère aussi à la religion. Donc ce qui fait que les gens ne s'intéressent pas trop en fait à ce détail. Parce qu'ils considèrent ça comme un détail. Mais tout ça là, il y a un certain nombre de mécanismes qu'on doit mettre en place pour arriver à ça. La justice qui doit aussi faire son travail. Un patient qui se voit son secret être divulgué, il va se dire, bon, aller à la justice, faire les tralala de la justice, perdre mon temps, ou bien aller patienter. Tu vois, il va faire la balance. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on doit d'abord régulariser en amont. Mais au-delà du patient, c'est à l'agent de santé de ça. Parce que quand le secret est divulgué, avant même d'arriver à la justice, tout à l'heure, on a parlé des conséquences. Mais les conséquences sont là, ils ne sont pas automatiquement effacées. Donc déjà, le mal est commis. Donc moi, je pense que vaut mieux ne même pas en arriver à là, au mal, qui est la divulgation de ce secret, jusqu'à arriver aux conséquences et au-delà à la justice. Et là, je crois que c'est de notre responsabilité. Et aussi, les syndicats, on a le SUSAS, oui. On a le Saint-Famed, oui. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir l'AGMN, okay, oui. L'Association des jeunes médecins du Niger, oui. Et au-delà, les ordres, on a l'ordre des médecins, médecins. L'ordre des pharmaciens, etc., mm-hmm. etc. Donc, ils doivent tous concourir mm-hmm. à une sensibilisation. Mm-hmm. Et même pas nous. Il y a aussi les organisations de la société civile mm-hmm, okay, qui œuvrent dans le domaine mm-hmm. de la santé. Quand on peut aider la plateforme des ICI, mm-hmm. au CAS, Roissène, qui sont là, oui. qui sont un regroupement des structures, des associations et ONG de la société civile qui œuvrent dans le secteur de la santé, mm-hmm. qui doivent tous concourir mm-hmm. à l'amélioration de la qualité, à l'accès aux soins mm-hmm. et aux services de soins à tous les niveaux. Et pas seulement sur les questions du secret professionnel, mm-hmm. mais aussi de l'accueil. Mm-hmm. Parce que c'est quand même le premier aspect quand vous recevez un patient. Mm-hmm. Un moment, c'était affiché dans les hôpitaux où c'est écrit même mm-hmm. un patient bien accueilli et guéri à 50%. Donc, je crois que c'est vraiment un effort que nous devons faire. Et sans oublier aussi les hommes et les femmes du média, mm-hmm. que je salue au passage, vous devez encore continuer à sensibiliser, parce que je crois que vous savez que la sensibilisation, mm-hmm. deux fois en fait, c'est humain, hein? Mm-hmm. C'est humain, on oublie, et puis bon, dans oui. des causeries, on dit certaines choses, on fait des glissements, mm-hmm. et c'est des glissements qui ont toujours des conséquences. Donc il faut qu'on continue tous ensemble à sensibiliser nos semblables, à sensibiliser tout le monde pour garantir le respect du secret professionnel.
Oui, docteur Awel, vous êtes membre de l'AGM. Qu'est-ce que donc votre association fait dans ce sens?
Alors, dans ce sens, oui. vous savez, ça c'est depuis la fac.
Oui.
Tout à l'heure, on a parlé des écoles de santé. C'est oui. depuis la fac. Mm-hmm. Il y a tout un module, tout un coefficient mm-hmm. de l'éthique et de la déontologie. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, aucun étudiant mm-hmm. ne met pied à l'hôpital sans avoir ce cours-là. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, mm-hmm. c'est des séances de sensibilisation, c'est des séances de rappel, mm-hmm. De recyclage. Quelqu'un m'a dit, on ne recycle pas un être humain.
Renforcement
des capacités.
oui.
Qu'on peut faire pour amener nos membres et au-delà, tous les agents de santé, parce que nous sommes tous soumis mm-hmm. au respect de ce secret médical, mm-hmm. professionnel.
Maman Bachier,
oui,
qu'est-ce que le SUSAS fait dans ce sens?
Voilà, le SUSAS en tant que structure syndicale, le but principal, comme toute organisation syndicale, en tout cas, c'est de garantir les biens moraux et matériaux mm-hmm. de tous militants. Qui dit défense matérielle et morale, mm-hmm. dit d'abord l'égalité.
Mm-hmm.
Et dans ce sens, le SUSAS, au lieu d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes,
mm-hmm.
en tout cas, le SUSAS va vers les militants. Dans le cadre des sensibilisations. Et rien qu'en 2020, mm-hmm. le SUSAS a fait deux fois le tour de tout le pays, en tout cas de toutes les régions et jusqu'au district, dans le cadre uniquement de l'éthique et de la déontologie.
Mm-hmm.
Deux fois le tour du Niger sur ce cadre. Et au-delà de cela, toute rencontre qui implique des militants, en tout cas ça ne passe pas inaperçu sans que le SUSAS parle du respect de l'éthique et de la déontologie dont le secret professionnel inclut.
Mm-hmm.
Et à titre illustratif, la rupture de ces secrets professionnels, même si le patient ou la victime ne porte pas plainte, en tout cas d'une manière ou d'une autre, ça impacte sur la qualité des soins, sur la prestation même. Parce qu'un centre de santé où on sait que les agents divulguent et les secrets professionnels, on a de moins en moins de fréquentation.
Mm-hmm.
Et à titre d'exemple, on a eu le cas d'une maternité où, en tout cas, la maternité-là, on a tout fait, les femmes ne fréquentent pas.
Mm-hmm.
On a fait les sensibilisations du monde, on a regroupé mm-hmm. tous les leaders, on a fait cela,
mm-hmm.
on a cherché partout pour résoudre ce problème. En tout cas, les femmes ne fréquentent pas. C'est par après, on a compris que
oui.
la maternité, au fait, était à côté d'un marché. Et la fenêtre de la fenêtre de la maternité,
oui, oui.
en tout cas, les oui. gens ont accès depuis les marchés.
Le marché, de voir ce qui se passe et là.
C'est par, après, on a oui. compris, on a juste clôturé.
Mm.
On a juste fait la clôture et ça a résolu le problème.
Mm-hmm.
Donc, de ce fait que, en tout cas, la divulgation des secrets professionnels, c'est très dangereux, c'est très grave.
Mm.
D'où le SUSAS prend ça, en tout cas, comme parmi ses cheval de bataille, en tout cas envers les militantes et militants du SUSAS, à chaque rencontre avec les militants du SUSAS, essaye d'expliquer un peu et le respect des règles, des principes d'éthique et de la déontologie.
Voilà, en cas de violation donc du secret professionnel là, dans le domaine de la santé, quelles sont donc à ce domaine les sanctions disciplinaires?
Les sanctions disciplinaires, ça c'est vraiment, ça relève de l'administration, ça relève de la hiérarchie et du code pénal. Maintenant, au niveau de la hiérarchie, vraiment c'est eux qui prennent toutes les dispositions. Je sais qu'il y a des sanctions disciplinaires qui sont là, qui existent. C'est vraiment au niveau de la hiérarchie que toutes ces décisions-là sont prises. Nous, on n'est que des ouvriers.
Des fois, nous, les journalistes, quand on va sur le terrain de l'ECSI, les responsables nous donnaient l'autorisation de faire les images. Bon. Est-ce que c'est normal?
Voilà, parce que ce n'est pas uniquement la profession médicale qui a l'éthique et la déontologie. Toutes les autres professions aussi. La presse aussi a ses...
Nous, si on nous donne l'autorisation, on prend. Oui.
Donc, vous prenez.
Est-ce que vous avez le droit de...
Mais avec le consentement...
Ça. Si vous avez l'autorisation, même si vous avez le consentement du patient, est-ce que vous avez le droit de divulguer l'identité du patient? C'est là la vraie question.
Non, c'est le truc, le bandeau noir là.
Voilà, si c'est terminer, avec le consentement...
Vous ne mettez pas toujours ça.
En tout cas, moi, c'est qui me
concerne. Merci d'avoir soulevé cette question.
Oui.
Sincèrement,
oui.
Il faut que vous sachiez aussi vous-même comment prendre vos images. Vous arrivez dans nos structures, vous prenez toutes les images. On voit à la télé certaines des images des femmes vulnérables. Des fois, elles ne savent même pas. Vous parlez de consentement. On connaît tous le consentement. Est-ce que vous avez ce consentement écrit? Vous allez me dire, bon, on a informé, ils étaient d'accord. Mais pour la plupart, elles ne sont pas informées. Vous allez voir des images, sincèrement, qui ne sont pas bonnes à regarder, qui ne sont pas bonnes à voir. Mais quand on regarde, quand c'est dans un centre de santé, vous mettez la vulnérabilité,
en avant.
La pauvreté.
Donc, docteur Awal, un dernier mot pour clôturer donc, ce forum sur le respect du secret professionnel dans le domaine de la santé.
Alors, c'est d'abord lancer un appel à nous autres agents de santé, à tous les niveaux, de vraiment faire tout pour respecter l'éthique et la déontologie. Parce que, comme l'a dit maman tout à l'heure, le secret médical est inclus. Mais au-delà du tout secret médical, toute l'éthique médicale et toute la déontologie médicale, parce que c'est un module que nous avons tous suivi, soit à l'école, soit à la faculté. L'autre appel, c'est à l'endroit aussi des organisations de la société civile, de mener des séances de sensibilisation, en tout cas pour garantir le secret médical à toute la population. Et enfin, à votre endroit,
les médias,
vraiment de prendre des images diffusables. Le visage qu'on cache. Vous savez, si vous prenez mon image, vous la divulguez, je la vois, je peux vous poursuivre.
Oui, je sais, on a une fois animé un forum là-dessus sur le droit à l'image.
Voilà. Donc, et de contribuer. Déjà, vous êtes en train de contribuer et je félicite encore Studio Kalangu pour cette belle initiative de continuer à sensibiliser, à nous aider à sensibiliser et tous les agents sur le respect du secret médical. Et au-delà des agents, même les patients. Parce que le patient a tellement de droits, mais malheureusement qu'ils ne connaissent pas. Donc, sûrement, peut-être si une fois que vous allez programmer, en tout cas, un forum sur aussi les... Je crois qu'il faut le faire.
Le droit du patient.
Le droit du patient. Le patient n'a que des droits. Il n'a que, mais malheureusement, les patients ne connaissent pas ces droits-là. Et on doit leur dire c'est quoi le droit. Et je crois que si que le jour où ils vont connaître leurs droits, ils vont nous obliger, nous en tant qu'agents de santé, à faire nos devoirs. À faire nos devoirs. Voilà, merci beaucoup.
Maman Bachir.
Et tout agent de santé qui sort d'une école de santé, en tout cas, elle a reçu ses cours d'éthique et de déontologie. Et sur le terrain aussi, il y a le suivi de la carrière, tout ça là. Il y a des formations, il y a des séminaires qui concernent cet aspect-là de la déontologie. Mm-hmm. Et au-delà, il y a des organisations comme les organisations syndicales, les ordres, mm-hmm. qui contribuent aussi dans le cadre des sensibilisations et autres. Mais moi, ici, il y a un mais que je vais dire, parce que c'est à l'image de notre société. Parfois, quels que soient les cours qu'on va dispenser à l'agent de santé, quelles mm-hmm. que soient les formations, quelle que soit la sensibilisation, en tout cas, sa première éducation, mm-hmm. c'est la base. C'est de chez lui qu'il prend cette éducation. Si dès la base de chez lui, là, de sa maison, il n'a pas reçu une bonne éducation, quel que soit le cours qu'il va recevoir, que ce soit sur le banc de l'école ou bien dans le cadre de suivi de la carrière, il y a des agents qui ne peuvent pas changer, malheureusement. Malheureusement, il y a ce genre de cas aussi. Mais malgré tout ça, en tout cas, nous, en tant que structure syndicale, on ne reste pas à bras croisés parce qu'on est obligé. On est obligé, c'est ça la charge de notre travail. On est obligé de faire le suivi, quel que soit en tout cas le caractère de l'agent. Mm-hmm. Nous, on est obligé d'aller vers les militants pour les sensibiliser. Parce que quand il y a problème, c'est vers les structures syndicales mm-hmm. que ces agents-là vont se tourner. Donc, au lieu d'attendre que le problème soit là, mm-hmm. en tout cas, on a toujours dit mieux vaut prévenir que guérir.
Bien sûr.
Voilà.
Nous sommes donc au terme de ce forum sur le respect du secret professionnel dans le secteur de la santé au Niger. Nous étions donc en compagnie de Maman Bachir Ali, membre du syndicat unique de la santé et de l'action SUSAS, et Dr Awal Issa Rachid, membre de l'Association des jeunes médecins et membre également de la plateforme Démocratie sanitaire et implication citoyenne. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Fatiza Kadia, la présentation du forum, la réalisation Mustapha Ayouba et la technique Amina Hassan. Merci et le programme continue sous le studio Kalongo.